Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Toute l'information avec Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe 1, il est 8h.
J'ai demandé qu'est-ce qu'on doit mettre comme chaussures pour partir à la mer en hiver, parce que je ne connais que les tongs. On m'a dit bottes ou baskets, ok, d'accord.
Et ce week-end, les baskets devraient suffire. Température printanière partout en France. Une bonne nouvelle pour les vacanciers nombreux qui ont choisi le bord de mer pour souffler un peu.
Le gouvernement débloque 1 milliard d'euros pour lutter contre les cyberattaques. Elles se multiplient ces dernières semaines dans les hôpitaux. Ce sera le dossier de ce 8h.
L'Algérie a libéré une trentaine de prisonniers d'opinion, parmi eux l'ancien correspondant d'Europe 1 à Alger, vous l'entendrez.
Et puis en football, après avoir envahi le centre d'entraînement du club, les supporters marseillais promettent de nouvelles actions. Ils réclament la démission du patron de l'OM.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Alors pour certains, ce n'est qu'un week-end. Pour d'autres, ce sont de vraies vacances jusqu'à demain. En tout cas, vous allez profiter d'un temps quasiment printanier sur toute la France, Marguerite.
Oui, et ce, quel que soit votre choix, en montagne ou bien sur les bords de mer, très prisés pour ces vacances d'hiver. À Deauville, par exemple, 2/3 des hôtels ouverts sont complets aujourd'hui. Reportage les pieds presque dans l'eau de notre envoyé spécial Damien Mestre.
À peu de choses près, on se croirait presque un jour d'été dans le monde d'après. Ça grouille de touristes sur la plage, sauf qu'il y a toujours les masques et simplement quelques détails qui trahissent les visiteurs comme Bérénice.
J'ai demandé qu'est-ce qu'on doit mettre comme chaussures pour partir à la mer en hiver, parce que je ne connais que les tongs. On m'a dit bottes ou baskets, ok, d'accord.
A priori pas de baignade donc, mais une furieuse envie de partir sur un coup de tête, comme Ludovic et son fils, voyage prévu à la dernière minute.
Juste envie de bouger en fait, le fait d'être confiné dans un appartement depuis plusieurs jours, ça nous a donné envie de sortir et de s'en aller quoi.
Histoire de réviser quand même quelques classiques.
Qu'est-ce que t'es en train de faire là?
Un château de sable.
On la sent sur la plage, cette envie pressante de s'évader. Philippe, lui aussi, vient tout juste d'arriver. Chaussures de sport, bâton de marche, il trace vers l'horizon.
J'imagine que vous prenez l'air.
Voilà, c'est ça, bah c'est plus que ça. C'est une grande marche, se reconnecter aux éléments, quoi. C'est la terre, c'est la mer. Et ici, c'est calme aussi, c'est vrai.
En tout cas, Philippe, comme tous ceux que j'ai rencontrés, ne regrette finalement pas de partir à la plage, plutôt qu'au ski. Deauville, Damien Mestre, Europe 1.
Beaucoup de Français sur les côtes donc, mais de nombreux vacanciers également en station à ce samedi est classé orange dans le sens des départs sur toute la France.
Et tout ce week-end, Marguerite, les forces de l'ordre seront mobilisées pour lutter contre un éventuel relâchement en matière de gestes barrières.
Oui, la douceur des températures, le soleil de fin de journée, tout cela est propice aux retrouvailles entre amis. Mais on le rappelle, le couvre-feu s'applique toujours à 18h. En Ile-de-France, 4000 policiers et gendarmes seront déployés. Renforcement des patrouilles également à Dunkerque où les contaminations sont en train de flamber. Écoutez cet appel ce matin du patron du SAMU du Nord, Patrick Goldstein.
La seule chose qu'on leur demande, c'est de faire attention, d'être prudent dans un climat de fête. C'est un message adapté de prudence par rapport à un moment donné de l'histoire de Dunkerque. Et puis voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que cette nuit, on a transféré 3 patients de réanimation de Dunkerque vers Lille. Donc le problème, il est réel. Il est probablement multifactoriel. Donc s'il vous plaît, amis dunkerquois, ne vous méprenez pas sur notre message. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de stigmatisation. Ce n'est que de l'amitié et de la prévention. Faites attention.
Patrick Goldstein, le patron du SAMU du Nord, avec Maximilien Carlier. Emmanuel Macron se laisse encore 8 à 10 jours pour dresser un bilan de l'épidémie et prendre les décisions qui s'imposent. Soit un allègement des mesures, soit à l'inverse, un renforcement des restrictions.
Et au milieu de cette lutte contre le Covid, c'est une autre bataille que doivent mener les autorités. La lutte contre les cyberattaques, elle se multiplie ces dernières semaines.
Et touche notamment les hôpitaux Rouen, Dax, Villefranche-sur-Saône, autant de services paralysés par le cryptage des données informatiques. Emmanuel Macron, jeudi, a annoncé le renforcement des systèmes de sécurité.
Et c'est le dossier de notre journal. Et pour en parler, on est avec Aude Leroy, notre spécialiste sécurité. Aude, qui sont d'abord ces cybercriminels ?
Eh bien, c'est une nouvelle pègre avec ses codes, son opacité, sa méfiance, composée de francs-tireurs, très en pointe informatiquement, très concentrés dans les zones russophones, comme l'explique Jérôme Billois, cyber-expert au cabinet Wavestone.
Ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'études. On sait que la qualité des études en mathématiques, en informatique, dans ces pays est élevée, et malheureusement des faibles niveaux de revenus, et donc ça les incite à tomber dans la criminalité cyber. Ce sont donc des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui peuvent pour certains avoir des vies tout à fait normales, et qui, dans la journée, pratiquent des actes criminels.
Ces cyberpirates se sont tellement professionnalisés que, depuis 2-3 ans, certains ont structuré leurs activités avec celui qui fabrique le virus, celui qui lance l'attaque, créant ainsi des PME du cybercrime.
Les principaux groupes, comme Reveal ou Ryuk encore, ce sont des dizaines de personnes qui se coordonnent et qui agissent ensemble pour à la fois construire les outils d'attaque et puis ensuite réaliser ces attaques et aller jusqu'à l'étape du paiement et de la libération des données.
Oui, le paiement, car l'attaque numéro un, c'est de chiffrer les ordinateurs et de réclamer une rançon qui peut se compter en millions, les fameux rançongiciels, et les sommes sont inversées en bitcoin, une monnaie qu'il est difficile de tracer.
Aude, on a l'impression que la France est particulièrement ciblée ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai ?
Eh bien, tout le monde est visé. La technique des cybercriminels, c'est de lancer le virus comme un filet de pêche, tous azimuts, et d'entrer dans les endroits vulnérables, là où il y a des failles. Et c'est pour ça que ça peut tomber dans un hôpital, une administration ou une entreprise. En fait, c'est de l'opportunisme. Alors, les experts ont repéré que ces criminels peuvent travailler soit pour leur propre compte, soit pour un État qui se cacherait derrière eux, les mercenaires, pour faire de l'espionnage industriel, par exemple, ou truquer une élection.
Merci Aude Leroy, spécialiste sécurité d'Europe 1. Alors pour lutter contre ces attaques, il y a le renforcement de la sécurité. 1 milliard d'euros sera débloqué dans les 5 années qui viennent. L'autre solution, Marguerite, c'est de combattre le mal par le mal.
Oui, travailler avec d'autres hackers, des pirates éthiques. Cette fois, Diane Berger a rencontré l'un d'entre eux.
Souvent, on a la vision du hacker qui veut faire que des actions malveillantes, mais il y a aussi des hackers qui veulent agir pour le bien des entreprises.
C'est le cas d'Adrien, consultant en cybersécurité de jour, le soir et les week-ends, pirate éthique qui répond au pseudo d'Ixo. Devant son ordinateur, il vient en aide aux entreprises soucieuses de la sécurité de leur site ou de leur application.
On va aller sur ce programme, on va essayer le maximum de techniques possibles pour déjouer les sécurités, déceler ces petites failles qui pourraient permettre d'obtenir par exemple des informations sur des utilisateurs.
Et dès qu'il trouve une brèche dans le système, il prévient son client pour qu'il la corrige.
C'est presque un jeu en fait, on s'amuse et en même temps on est là aussi pour essayer de faire avancer la sécurité du mieux possible.
Mais c'est aussi l'occasion de remplir son portefeuille. Pour chaque faille repérée, l'entreprise lui verse une récompense qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros.
Diane Berger, ces cyberattaques et la lutte menée par les autorités. On en reparlera juste après ce journal avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Il est mon invité à 8h15.
À Pau, un ressortissant soudanais est toujours en garde à vue. Il a été interpellé hier après avoir tué à coups de couteau le responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés.
8h07 sur Europe 1. En Algérie, ils sont une trentaine à avoir retrouvé la liberté hier soir. Plus de 30 prisonniers politiques ont été graciés par le président algérien.
Parmi eux, une voix que vous connaissez sans doute sur Europe 1, Raled Drareni, ancien correspondant de notre station à Alger. Il était incarcéré depuis près d'un an. Yasmina Katou, il est sorti de prison hier soir.
Oui, l'ex-correspondant d'Europe 1 en Algérie, enfin libre, est apparu en forme depuis la voiture qui le conduisait chez lui à Alger. Dès les toutes premières minutes de liberté, le journaliste s'est adressé à ses sympathisants sur les réseaux sociaux.
Remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont soutenu les détenus d'opinion, car votre soutien est essentiel pour nous tous et votre soutien est la preuve de notre innocence. Merci.
Raled Drareni s'est entretenu avec son employeur TV5 Monde, dit se sentir bien physiquement et moralement, libéré après une grâce présidentielle. Une mesure de liberté provisoire, rappelle Christophe Deloire, directeur de Reporters sans frontières.
L'audience qui a été fixée au 25 février, l'audience de la Cour suprême, pour statuer sur son cas, elle aura vraisemblablement lieu. Donc pour l'instant, il demeure une incertitude sur son sort judiciaire. Néanmoins, la libération, c'est évidemment une excellente nouvelle.
Au total, hier, 33 journalistes et opposants politiques sont sortis de prison. Un geste d'apaisement de la part du régime algérien, 2 jours avant le 2e anniversaire du Hirak.
Les précisions de Yasmina Katou pour Europe 1. En France, les motards en colère manifesteront cet après-midi à Paris et dans plusieurs villes. Ils réclament le droit de remonter les files de voitures. Cette pratique, qui a été testée pendant 4 ans, a finalement été interdite le 31 janvier dernier.
Marguerite, on passe au sport avec le feuilleton de cette rentrée, la rupture consommée entre l'Olympique de Marseille et ses supporters.
Oui, les supporters veulent la démission de la direction. La direction, elle, veut suspendre le partenariat signé avec les clubs de supporters. Rien ne va plus. Marseille affronte Nantes tout à l'heure dans un contexte bouillant, Stéphane Frangy.
À une lune de miel qui semble bien loin, et Anthony, qui est membre actif des Fanatiques, ce n'a qu'un constat aujourd'hui, ces hommes d'affaires n'ont rien compris à leurs supporters.
Ils ne se rendent pas compte, ces gens-là. Personnellement, Marseille, l'OM, c'est ma vie. C'est mon oxygène. Une fois par semaine, je vis mes émotions, les bonnes, les mauvaises. C'est ma vie, franchement, c'est ma vie.
Face à la presse, les présidents de groupe, micro à la main, Christian Cataldo et Rachid Zeroual en tête, le martèlent. Le divorce est consommé, ils ne reconnaissent plus Jacques-Henri Hérault comme dirigeant et dressent le portrait robot du candidat idéal à sa succession.
La personne, il faut qu'elle soit consciente qu'elle est dans une ville qui n'est pas comme les autres.
On veut un vrai patron comme on a eu avec Bernard Tapie, des gens qui sont, malheureusement, je vais déplaire à tout le monde, Ola, c'est un vrai patron.
Et les voilà donc forts de soutien de tous bords dans cette lutte, des soutiens parfois inattendus.
Mathieu Valbuena, voilà, pourtant on y en a mis dans la tête, hein, Mathieu Valbuena, mais il est aussi à fond avec nous.
Et c'est ainsi qu'il donne le ton. Si Jacques-Henri Hérault venait à s'accrocher à son poste, eh bien ils appelleront à une grande manifestation dans la ville. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Nantes-Marseille, c'est donc à 17h après la première rencontre de la journée. Tout à l'heure, Saint-Étienne-Reims. Hier, Lyon a repris provisoirement la tête du championnat en battant Brest.
Émilie Jolie
vient de perdre son père. Philippe Châtel est décédé hier à 72 ans. Il avait écrit et composé cette comédie musicale qui a depuis fait le tour du monde.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
C'est vous que l'on entend dans cette toute première version de la chanson. C'était en 1979. Vous avez rendu hommage hier à Philippe Châtel.
Mais je lui ai rendu hommage tout de suite parce que il a été le créateur un peu avant-gardiste d'une comédie musicale de grande qualité, ouais, qui était d'ailleurs destinée au début aux enfants et qui a largement dépassé cet emploi-là, mmh, et qui m'avait invité à dans son casting de l'époque. Et il n'y avait que des grands artistes. J'avais eu de la chance d'être invité à participer à cette comédie Émilie Jolie.
Julien Clerc, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Philippe Châtel ?
J'avais gardé le souvenir de quelqu'un qui était en pleine forme et que, pour vous dire, comme c'était il y a longtemps, nous avions des cheveux bien longs, lui et moi.
Merci beaucoup, merci Julien Clerc d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir rendu hommage ce matin à Philippe Châtel sur Europe 1. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Retour de l'info à 8h30 avec Lionel Gougelot.